Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le Saint-Siège sera présent à l'exposition universelle Milan 2015. Le président du Conseil pontifical pour la culture a signé ce jeudi l'accord validant sa participation. L'Église a besoin de pasteurs authentiques qui prennent soin de leurs troupeaux tous les jours avec assiduité. C'est l'adresse pressante que le pape a lancée à la congrégation pour les évêques. Le pape qui est revenu sur les critères qui devraient guider le choix des évêques. Au sommaire de ce magazine, nous reviendrons aussi sur les derniers moments de Benoît XVI le 28 février dernier alors qu'il quittait le Vatican. Nous entendrons la sous-secrétaire du Conseil pontifical Justice et paix. Et puis l'État d'Israël crée une distinction entre arabes chrétiens et arabes musulmans, une mesure qui provoque la stupeur. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le Saint-Siège a signé ce jeudi matin au Vatican le protocole de participation à l'exposition universelle Milan 2015, un événement qui se tiendra du 1er mai au 31 octobre 2015 sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie » et auquel participeront plus de 140 pays. La signature de cet accord a eu lieu dans la salle royale du Palais apostolique, en présence du cardinal Gianfranco Ravasi, le président du Conseil pontifical pour la culture et commissaire général du Saint-Siège pour l'exposition, et de Giuseppe Sala, le commissaire du gouvernement italien pour l'Expo 2015. Les deux hommes se sont ensuite rendus en salle de presse du Saint-Siège pour expliquer aux journalistes le sens de cette présence vaticane à Milan. Hélène Détombes était sur place.
Participer à l'Expo Milan 2015, c'est pour le Saint-Siège s'inscrire dans une tradition qui remonte à 1851 lors de l'Expo de Londres. Mais le thème choisi pour ce nouvel événement, qui se déroulera l'année prochaine sur le sol italien, revêt une dimension toute particulière. Le Saint-Siège entend y représenter l'Église universelle dans sa variété et son identité spirituelle. Son pavillon aura pour thème « Pas de pain seulement » tiré de l'Évangile, qui, comme l'explique le cardinal Ravasi, met l'accent sur le caractère symbolique de l'alimentation.
Manger n'est pas seulement quelque chose de physique, surtout est l'expression de l'intériorité de la personne, des propres sentiments, de la spiritualité qui veut se communier aux autres. Et pour cette raison, nous voudrions que cette expérience de l'Essentiel soit un moment de communion entre les peuples, entre les cultures, entre les expressions de l'humanité.
Le pavillon du Saint-Siège s'articulera autour de quatre éléments, soulignant notamment la nécessité de partager la nourriture, de protéger la création. L'accent sera mis également sur les actions de solidarité et sur l'éducation des nouvelles générations à ne pas gaspiller. Cette initiative permettra aussi de sensibiliser au sort tragique de certaines populations.
Il faut que la communauté humaine et la communauté chrétienne s'intéresse des peuples comme la Syrie, comme l'Afrique, le Soudan, qui sont dans une situation dramatique pour ce que concerne la survivance tout court. Mais toujours, il faut se rappeler qu'il est nécessaire même d'offrir la possibilité d'une expression plus libre de l'homme, parce que l'homme ne vit pas seulement de nourriture, mais l'homme a besoin de la parole, a besoin de l'amour, a besoin de l'attention des peuples.
Les 164 Caritas présentes dans le monde participeront à l'exposition, une exposition dont la date coïncide avec celle des objectifs du millénaire pour le développement, l'occasion de dénoncer une nouvelle fois ce que le pape François a qualifié de scandale de la faim, qui concerne environ 1 milliard de personnes dans le monde.
Le pape François se rendra ce vendredi en fin d'après-midi au séminaire romain majeur, jour de la fête de Notre-Dame de la Confiance, qui patronne depuis un siècle les séminaristes de la ville éternelle. Le Saint-Père sera reçu par le cardinal Vallini, vicaire de Rome, et rencontrera de nombreux séminaristes. Autre information, ce jeudi, le calendrier des cérémonies pontificales a été dévoilé pour les deux prochains mois. Parmi les événements notables, les exercices spirituels du pape et de la curie, qui commenceront le 9 mars et qui seront exceptionnellement hors du Vatican, mais dans le village d'Areccia, non loin de Rome. A noter également que le jeudi saint, 17 avril, le pape célébrera la messe in cena domini dans un contexte de son choix, comme il le faisait à Buenos Aires. Buenos Aires et comme il l'a fait l'an dernier, le lieu sera connu ultérieurement. L'Église a besoin de pasteurs authentiques qui prennent soin de leurs troupeaux tous les jours avec assiduité. C'est un long discours enflammé que le pape François a adressé jeudi matin à la Congrégation pour les évêques. « Quand je signe une nomination d'évêque, a-t-il dit aux membres de la Congrégation, je voudrais pouvoir toucher du doigt l'autorité de votre discernement. » Pour bien souligner l'importance du travail de ce dicaster, le Saint-Père a énoncé en détail les critères qui devraient guider le choix des évêques. Romilda Ferrauto.
Un discours sévère et sans détour. Le pape François demande aux membres de la Congrégation pour les évêques de ne pas céder aux coteries, aux luttes d'influence, à leurs préférences ou sympathies. « Nous n'avons pas besoin de chefs d'entreprise ou d'administrateurs délégués », a-t-il averti. L'Église n'a besoin ni d'apologètes ni de croisés. Les évêques doivent être des témoins humbles et courageux du ressuscité, capables de prendre de la hauteur au-dessus de nos bassesses et de nos petites prétentions. Pour repérer un évêque, il ne sert à rien de compter ses qualités humaines, intellectuelles, culturelles ou pastorales. Le profil d'un évêque n'est pas la somme algébrique de ses vertus. Bien sûr, il doit exceller par son intégrité, sa solidité chrétienne, sa fidélité à la vérité, sa transparence, sa capacité à gouverner. Mais toutes ces qualités indispensables sont subordonnées à un engagement prioritaire, le témoignage au Christ ressuscité, auquel s'ajoute la conscience devant Dieu et l'engagement collégial. Selon le pape François, l'Église a certes besoin de gardiens de la doctrine, non pas cependant pour mesurer l'écart entre celle-ci et le vécu des gens, mais pour séduire le monde par la beauté de l'amour et par la liberté offerte par l'Évangile. Le souverain pontife a reconnu qu'il n'y avait pas de modèle standard valable pour toutes les églises. Le défi est donc d'entrer dans la perspective du Christ qui sait ce dont chaque église a besoin, en tenant compte des spécificités de chacune. Ceux qui travaillent au sein de la Congrégation pour les évêques devront donc faire preuve de professionnalisme et travailler avec une sainte inquiétude.
Le chrétien incohérent est objet de scandale et le scandale tue, des mots forts prononcés par le pape François ce jeudi matin durant la messe présidée à Sainte-Marthe. L'homélie du pape s'est concentrée sur le sacrement de la confirmation. La personne qui reçoit ce sacrement, affirmait le pape, manifeste sa volonté d'être chrétien. Être chrétien signifie témoigner de Jésus-Christ. C'est une personne qui pense comme un chrétien, qui sent comme un chrétien et qui agit comme un chrétien. C'est cela la cohérence de vie d'un chrétien. Quelqu'un, ajoutait le pape, peut bien déclarer avoir la foi, mais s'il lui manque une de ces choses, il n'est pas un chrétien. Il y a quelque chose qui lui manque, il y a une incohérence, et les chrétiens qui vivent la plupart du temps et le plus souvent dans l'incohérence font beaucoup de mal, a-t-il souligné. Jésus, a poursuivi le pape, parle vraiment très fort contre le scandale. Celui qui scandalisera un seul de ses petits qui croient en moi, un seul de ses frères, sœurs qui ont la foi, c'est mieux pour lui qu'on lui mette au cou une meule de moulin et qu'il soit jeté à la mer. Un chrétien incohérent fait beaucoup de mal, le scandale tue. Si souvent, ajoutait le pape, nous avons entendu « Mais mon père, je crois en Dieu mais pas dans l'église, parce que vous, chrétiens, dites une chose et vous en faites une autre ». Ainsi a-t-il conclu, il faut prier, parce que pour vivre dans la cohérence chrétienne, il faut la prière, parce que la cohérence chrétienne est un don de Dieu et nous devons le demander. « Seigneur, que je sois cohérent », a demandé le pape. « Seigneur, que je ne sois jamais objet de scandale, que je sois une personne qui pense comme un chrétien, qui se sente comme un chrétien, qui agisse comme un chrétien. Et quand nous tombons à cause de notre faiblesse, nous demandons pardon. » Une homélie pleine d'enseignements à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Une invitation à s'aimer malgré les différences de caractère, d'origine ou d'âge. Telle est l'exhortation de François qui s'adressait ce jeudi matin aux évêques amis du mouvement des Focolari. Ils sont réunis ces jours-ci à Castel Gandolfo pour leur 37e rencontre internationale sur le thème « La réciprocité de l'amour entre les disciples du Christ ». Il est important de vivre ensemble de manière fraternelle, a dit le pape en partageant les expériences spirituelles et pastorales dans la perspective du charisme de l'unité. Citant la lettre apostolique Novo Millennio Innuente de Jean-Paul II, le pape François a rappelé que faire de l'Église la maison et l'école de la communion est vraiment fondamental pour l'exercice de tout engagement dans l'évangélisation. Cela révèle en effet le désir profond du Père, c'est-à-dire que tous ses enfants vivent comme des frères. Plus de détails sur notre site internet www.radiovaticana.va. Il y a un an, le 28 février 2013, un hélicoptère blanc s'élevait dans le ciel romain un peu après 17h. À son bord, Benoît XVI qui quittait le Vatican, derniers instants de ce pontificat. 20 minutes plus tard, l'appareil de la République italienne rejoignait Castel Gandolfo. Sur la petite place devant le palais pontifical, des milliers de fidèles attendaient le pape. Et c'est depuis la loggia qu'il s'est pour la dernière fois adressé à eux. « Merci de tout cœur, je suis heureux d'être avec vous. Cette journée pour moi est différente des autres jours. Je ne suis plus souverain pontife, indiqua-t-il, mais simplement un pèlerin qui entame la dernière étape de son pèlerinage sur cette terre. » Et c'est avec cette simplicité qui le caractérise qu'il s'est retiré, après avoir souhaité une bonne nuit à tous ceux qui étaient venus le saluer. Flaminia Giovanelli, la sous-secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix, a suivi minute par minute cette dernière rencontre avec le pape allemand. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle nous en parle, tout en revenant sur la personnalité de Benoît XVI.
Je me souviens qu'avec nos collègues, on a allumé la télévision pour suivre cet événement jusqu'au bout. Et on était tous vraiment très émus. Très ému pour le fait en soi, et aussi parce que c'était, d'un point de vue même esthétique, quelque chose qui touchait quand même nos cœurs jusqu'au bout, et puis aussi la sensation de vivre un moment historique. On se sentait un peu protagoniste, d'une certaine manière, de quelque chose qui nous dépassait. Mais c'était, enfin, on l'a vécu tous ensemble, et ça fait quand même une différence, je veux dire. À propos de ça, je voudrais encore ajouter de ce « tous ensemble », un des enseignements que j'ai tiré le plus de tout ce que le pape nous a dit pendant ces années, c'est quelque chose qui a trait à sa première homélie, à l'homélie au commencement de son pontificat, et qui dit « un chrétien n'est jamais seul ». Et dit, parce que nous avons toujours ces saints qui nous accompagnent et qui sont là. Et alors, je dois dire que cette idée de communauté est quand même une chose très, très belle et dont il faut se souvenir dans les moments justement de tristesse qu'on a et de mélancolie.
Durant ces 8 années de pontificat, Benoît XVI a affronté de nombreuses crises, des questions très difficiles. Le scandale de la pédophilie au sein de l'Église, il y a eu l'affaire Williamson, il y a eu le scandale Vatilix. On avait le sentiment que c'était un pape d'une extrême douceur qui portait une grande souffrance.
Oui, c'est sûr. C'est ce que nous avons tous ressenti. Bon, la douceur, c'est quelque chose... Nous, on a été avec le dicastère 3 fois en audience chez le Saint-Père. Et c'était très bref, comme toujours. Mais enfin, il était très affectueux. Alors, c'est pas comme... il n'était pas comme on le voyait dans les journaux. Qui, non, souvent, la presse n'a pas été avec lui, chaleureuse. Mais... Et puis, je disais, mais quand on le rencontre, on voyait qu'il était vraiment attentif à la personne. Et moi, je regarde même les photos que j'ai avec lui. Et c'est toujours lui qui tenait avec ses 2 mains la mienne. Et... voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner.
Les personnes qui ont eu la chance de le rencontrer évoquent souvent donc cette grande douceur, cette bonté et quelque chose de transcendantal dans son regard.
Ah oui, c'est sûr. D'une grande spiritualité, vraiment. Je crois que ce qu'il a promis de faire, c'est-à-dire de prier pour l'Église et pour chacun de nous, je crois que c'est vraiment dans son tempérament, une de ses caractéristiques.
Avec le recul, 1 an après, quels enseignements peut-on tirer de cet acte qu'a posé Benoît XVI le 11 février ?
Oh, je crois que ça met en valeur surtout son humilité. Les gens ont compris, je crois, plus la personne après cet acte. Les personnes ont quand même été très touchées par cet acte d'humilité.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. Les conséquences de la crise en Ukraine ont fait passer au second rang cette information. Le métropolite de Tchernovitsky et de Bukovine, Onoufre, a été élu à la tête du siège métropolitain de Kiev le 24 février dernier par la session du Saint-Synode de l'Église orthodoxe du pays. Il remplace le patriarche Vladimir qui était malade. Onoufre a le titre de locum tenens, c'est-à-dire qu'il dirige le patriarcat sans pour autant avoir le titre de métropolite de Kiev. Cette branche de l'Église orthodoxe ukrainienne est rattachée au patriarcat de Moscou. Onoufre a d'ailleurs reçu la bénédiction de Kirill, le patriarche de toutes les Russies. Mais au-delà de l'élection du nouveau métropolite, le Saint-Synode de l'Église ukrainienne a décidé de créer également une commission de dialogue avec les représentants des autres églises orthodoxes du pays, comme l'Église orthodoxe rattachée au patriarcat de Kiev ou encore l'Église autocéphale. Une instance qui souligne la volonté de surmonter les divisions à l'intérieur de l'orthodoxie ukrainienne alors que le pays traverse une grave crise. Thank you. C'est un projet de loi controversé qui a été adopté ce mardi par la Knesset, le Parlement israélien. Un projet qui, pour la première fois, fait la distinction entre les citoyens arabes de confession musulmane et ceux de confession chrétienne. Le texte accorde, par exemple, au sein de la Commission nationale pour l'égalité des chances, dans l'emploi, des sièges distincts à des représentants des travailleurs chrétiens et musulmans de la communauté arabe israélienne. Ce texte a été vivement dénoncé par plusieurs députés arabes israéliens, ainsi que par l'OLP, comme empreint d'un sectarisme sans précédent. Le grand quotidien israélien Haaretz parle même d'une loi raciste. Je vous propose d'écouter la réaction de Mgr William Shomali, le vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine.
Cette loi est contre l'histoire, parce que depuis 13 siècles, les chrétiens se considèrent comme des arabes et les musulmans se considèrent comme des arabes. On ne veut pas changer le cours de l'histoire en une session de la Knesset. D'ailleurs, ce sera contre la volonté des chrétiens eux-mêmes qui ne veulent pas devenir une entité à part ou un ghetto ou une minorité à l'intérieur d'une autre minorité. C'est-à-dire, ils seront doublement minoritaires en tant qu'arabes, on ne veut pas changer leur statut réellement, et en tant que chrétiens parmi les arabes. Il y a un danger de séparer le fait d'être chrétien du fait d'être arabe, parce que dans les autres pays arabes, tout le monde les considère les chrétiens comme des arabes. Autrement, ça créera une séparation terrible entre les deux communautés et ce sera la source d'une souffrance pour les chrétiens, en plus du fait qu'ils ne veulent pas ce changement. Ce n'est pas opportun, ce n'est pas juste de promulguer des lois si les chrétiens ne la veulent pas. On a défini le statut d'un chrétien sans consulter les chrétiens eux-mêmes, ce qui n'est pas juste en soi.
Les réactions n'ont pas manqué, notamment de la part de certains députés arabes israéliens qui ont dénoncé une manœuvre politique de la droite israélienne. C'est une analyse que vous partagez ?
Certainement, c'est une décision politique, pas religieuse. C'est une décision politique, certainement, qui prépare le terrain à enrôler les chrétiens dans l'armée ou les russes. Quand on les sépare des musulmans, donc ce sera plus facile de faire une autre loi pour les enrôler dans l'armée d'une façon obligatoire. C'est une décision politique, certainement.
Vous évoquez une décision très certainement politique, mais en même temps, n'est-elle pas aussi le reflet d'une certaine droitisation de la société israélienne, de la classe politique israélienne, plus religieuse et peut-être moins ouverte aux compromis ?
Certainement que le Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient, devient plus religieux, plus fanatique. Ça nuit aux relations réciproques entre la minorité et la majorité. Ce sont toujours les minorités qui souffrent du fanatisme religieux. Et cela s'applique aussi en Israël, où la droite commence à être très forte. Si on veut abolir toute ségrégation envers les chrétiens, on abroge toute ségrégation envers la minorité arabe. Dans ce cas-là, tout le monde jouira d'un même statut.
Et des propos recueillis par Manuela Afigi. Et restons en Terre Sainte pour terminer ce magazine. Sachez que le site internet concernant la prochaine visite du pape dans la région a été officiellement lancé. L'Assemblée catholique des ordinaires de Terre Sainte met à disposition des internautes des informations pratiques pour les journalistes, mais aussi le programme du voyage du souverain pontife, ainsi que des informations historiques sur la visite du pape Paul VI il y a 50 ans ou sur les chrétiens de la région. Le site proposé en 6 langues sera régulièrement mis à jour. Son adresse, popefrancisholyland2014.lpj.org, popefrancisholyland2014.lpj.org. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.